Café Cosé.
Café Cosé.
Une radio participative à la Belle de Mai, 36 rue Bernard.
Ok. Ok.
Radio Café Cosé. Bonjour Sarah.
Bonjour Solange.
Bonjour tout le monde.
Alors Solange, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on avait envie de partager avec les auditeurs l'histoire du voyage de la figue de Barbarie que nous a raconté Sybille.
Oui. Mommy, oui.
Oui, tu l'appelles Mommy. Oui. Alors, tu peux, avant qu'on débute cette fabuleuse histoire, nous raconter un petit peu la, ta rencontre avec Sybille?
Yes. Yes, Sarah. J'ai rencontré Mommy quand tu m'as rencontré à la cuisine. Toi, Sarah, tu m'as dit, tu voulais que j'apprenne ton maman à parler l'opidjin. L'opidjin qui est le faux anglais, l'anglais du sous-quartier. Oui, du Cameroun, parce que je suis camerounaise. Et au Cameroun, on parle l'anglais et le français. Alors, l'opidjin, c'est l'anglais du sous-quartier. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était trop beau. Parce que moi, en l'apprenant, l'opidjin, elle aussi, elle m'a appris beaucoup de choses. C'était comme si on se reconnaissait depuis. Et de là, j'ai vu une calebasse qui était dans son jardin. Je lui ai demandé que, ah, subitement, c'est venu dans ma bouche, Mommy, sans que je m'en rende compte. Mmh. Mommy, ça veut dire une personne que tu aimes beaucoup, que tu as l'affection. J'ai trouvé cette affection et j'ai dit subitement, Mommy, la canaille qui est dans ton jardin me plaît. Et Mommy a commencé à me raconter le canari. Et nous sommes allés dans plein des histoires que Mommy m'a dit, bon, je vais te raconter plein des histoires de la tomate, du piment et la figue de Barbarie. Alors, notre première histoire, c'est la figue de Barbarie que vous allez écouter si bientôt.
Bon, Solange, dis-moi, ma belle, est-ce que tu connais ce fruit qu'on appelle figue de Barbarie? T'as déjà vu ça au Cameroun?
Non, Mommy, je n'ai pas encore vu ça au Cameroun. Mais peut-être j'ai vu et que je ne sais pas ce que c'est. Explique-moi, Mommy, c'est pour ça que je suis là.
Ah bon, alors écoute, tu sais que moi, j'ai toujours aimé savoir d'où venaient les fruits, les légumes qu'on mange, parce qu'en fait, ils migrent. Ils n'arrêtent pas de migrer, c'est-à-dire depuis toujours, tous les gens, ils ont migré dans le monde. Et quand ils bougent, ils emmènent les plantes avec eux.
Oh.
Et en fait, la plupart des arbres que tu vas voir au Cameroun, que tu crois qui sont originaires du Cameroun,
yes.
Ils peuvent venir de l'autre bout du monde, mais tu ne le sais pas.
Jesus.
Bon, donc, moi, je voulais savoir si tu connaissais ce fruit et je voudrais te raconter son histoire, parce qu'elle me plaît.
Yes, mommy, I want me to tell me really what it means, this fruit, because I want to know.
Parfait. Donc, si tu veux, ce que je vais faire, moi, c'est que pour voir comment le fruit a voyagé, je regarde comment les gens l'ont nommé. D'accord? Ça, c'est ma technique.
D'accord,
oui, c'est bizarre, mais ça marche. Tu vas voir, ça marche. On refait toute l'histoire. Donc, ce fruit, il s'appelle figue de Barbarie. Tu vois, c'est ce fruit-là qui pousse sur un cactus dans des régions chaudes et sèches. Donc, c'est pour ça que chez toi, tu ne peux pas avoir ça.
Yes,
d'accord.
Mommy, I understand.
Donc, pourquoi? C'est que le nom de ce fruit, il va nous emmener très loin. Et c'est ça que je voulais te raconter. Parce que ça me plaît comme le nom.
Mommy, ça va nous amener très loin. Où je veux vraiment, où tu m'expliques, où ça va nous amener très loin. Mais le mot très loin, j'en ai envie.
Alors, c'est exactement ça. Tu prends le nom. Alors, il s'appelle figue de Barbarie. Figue, ça veut dire fruit. Si tu veux un fruit un peu mou, on peut dire figue de tas de fruits. Bon, d'accord? Donc, ça veut dire fruit de Barbarie. Barbarie, ça veut dire quoi? Barbarie, c'est comme berbère.
Excuse-moi, mommy, berbère. Mommy, tu sais, me and Oba go for school. So, mommy, Barbarie, I want you to explain.
Pourquoi figue de Barbarie? Fruit qui vient de Barbarie. Qu'est-ce que c'est Barbarie? Il y a très longtemps déjà chez les Grecs,
yes.
c'était les gens qui parlaient une langue différente. C'est-à-dire, tu vois, il y avait les Grecs d'un côté et puis ils parlaient une langue qu'on ne comprenait pas.
Yes.
Et puis ensuite, les Français, ils ont gardé ce mot barbarie.
Yes.
Et c'est comme ça qu'ils nommaient l'Algérie.
Wow.
D'accord ? Donc l'Algérie, peut-être aussi la Tunisie et le Maroc, mais surtout quand ils ont colonisé l'Algérie, on ne l'appelait pas l'Algérie, on l'appelait la barbarie. Donc ça veut dire tout simplement que les Français, ils disent, ce fruit-là que tu vois, il nous vient d'Algérie. C'est les Algériens qui nous l'ont fait connaître. Quand moi, j'ai su ça, je me suis dit, mais comment eux, les Algériens, ils nomment ce fruit ? Alors, ils m'ont dit, on l'appelle karmous nsara. Karmous, ça veut dire fruit, pareil, figue.
Mais en arabe.
En arabe, oui, okay, t'as raison.
D'accord.
En arabe. Nsara, ça veut dire de Nazareth. Nazareth, le village où est né Jésus.
Ah, oui,
et ça
Nazareth,
veut dire, si tu traduis bien, ça veut dire, c'est le fruit des chrétiens.
Oui, mais bon, mais quand tu dis, c'est un fruit... qui est né chez les Arabes, et c'est un fruit chrétien. Là, je suis perdue, moi, mais je ne comprends plus rien.
Et alors, ça veut dire que ce fruit-là, c'est les chrétiens qui nous l'ont apporté. Alors, à mes amis algériens, j'aurais dit, mais pourquoi vous le nommez comme ça? Ils ont dit, eh ben, écoute, on ne sait pas très bien, mais on pense que pendant la colonisation, tu sais que les Français, ils ont colonisé l'Algérie vers 1830. Et ils pensent que c'est les Français qui leur ont apporté ce fruit. Alors, si tu regardes bien, Solange, nous, on dit, c'est les Algériens qui nous ont donné ce fruit.
Oui.
Et eux, les Algériens, disent, c'est les Français qui nous ont donné ce fruit.
Oui.
Donc, il y a quelque chose qui ne va pas.
C'est là où ils ont donné ça aux chrétiens?
Avant la colonisation,
oui.
on n'avait pas ce fruit. Et après la colonisation, c'est les chrétiens qui nous l'ont apporté. Ils disent le contraire de nous.
Écoute, Sarah, tu écoutes ce que Momi dit. Elle dit, les Français appellent la figue de barbarie le fruit des musulmans. Et les musulmans appellent la figue de barbarie fruit des chrétiens. Parce qu'ils se disent que c'est les chrétiens qui ont ce fruit. Sarah, qu'est-ce que tu penses? Tu savais ça?
Mais en fait, il y a encore une autre façon de l'appeler le fruit. Parce que donc, les Français disent figue de barbarie, les Arabes disent figue des chrétiens, enfin les Arabes d'Algérie. Mais en fait, en Tunisie, on l'appelle encore autrement.
Ah bon?
Oui, on l'appelle hindi. Et en fait, c'est comme si on dit la figue des Indiens.
C'est ça, il y a un problème. Tu vois bien que si on regarde le nom du fruit, on va voir qu'il a... migré, mais on ne sait pas d'où il vient,
c'est
finalement.
Exactement, c'est ce que je viens de comprendre, parce que indien et français
et algérien.
Et Algérie.
Là, on va commencer le voyage. Karmous hindi, c'est le fruit des Indiens. Les Indiens d'Amérique, pas les Indiens d'Inde. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de fruits et de plantes que nous mangeons qui nous viennent d'Amérique. Quand Christophe Colomb a découvert l'Amérique... Après ça, il y a beaucoup, beaucoup des plantes d'Amérique qui sont arrivées avec les marins dans les bateaux.
Wow.
Au Mexique, où j'ai vécu, il y a beaucoup de figues de barbarie. Et la capitale du Mexique, Mexico, s'appelle en nahuatl Tenochtitlan. Là, tu ne comprends plus rien de ce
non,
que je dis.
Non, je suis perdue, parce que Tenochtitlan, là, je suis perdue.
Alors, Tenochtitlan, ça
mais
veut
dire... Mais c'est où tu parles, moi, mais c'est sans voix.
Écoute, c'est qu'on change de langue.
Oui,
Tenochtitlan, ça veut dire le lieu de la figue de barbarie. Et c'est comme ça qu'on appelle la capitale de Mexico. Mmh. Mais dans quelle langue? J'ai encore changé de langue.
Mmh.
On est passé du français
mmh.
à l'arabe. Mmh. Maintenant, on passe au nahuatl. Écoute-moi bien. Nahuatl. Pas nahuac. Nahuatl.
Mmh.
Alors, c'est très agréable à prononcer. T'as un petit souffle qui sort de la langue. Bon, pourquoi c'est important? Ça, c'était la langue des Indiens qui habitaient dans la région de Mexico et qui avaient un très grand empire, ce qu'on appelait les Aztèques. D'accord? Quand sont arrivés les Espagnols. Et pourquoi c'est important ce tr? C'est que si tu regardes, par exemple, la tomate, d'où elle vient la tomate? Eh bien, il suffit que tu regardes dans le dictionnaire, on dira que ça vient du mot tomate. Ah, d'accord.
Wow.
Et si tu veux savoir le chocolat, ça vient d'où le chocolat? Je te le dis, chocolat.
Ah, j'apprends beaucoup aujourd'hui.
Attends, et l'avocat?
Avocat.
Et la cacahuète?
Cacahuète.
Cacahuète. On y est. D'accord.
Yes, mommy, yes, mom.
Donc,
yes,
tu as, il faut
ma.
Savoir les langues.
Yeah, oui.
Bien. Donc, je me dis, est-ce que la figue de Barbarie vient du Mexique? Alors, je regarde la langue espagnole. Parce que, comment est-ce qu'ils l'ont appelé les Espagnols quand ils sont arrivés au Mexique? Et est-ce qu'ils lui ont donné le nom indien? En espagnol, on appelle la figue de Barbarie tuna. Hein, c'est pas tunac, c'est tuna. Si tu regardes dans le dictionnaire, on va te dire c'est un mot d'origine taïno. Ah, Solange, on reprend le voyage,
oui.
On va plus loin,
oui.
Et on va remonter le temps.
C'est une très belle histoire de momie.
Donc, il faut que tu comprennes,
yes, ma.
Comment a été colonisée l'Amérique. Ça commence avec quelqu'un qui s'appelle Christophe Colomb. Non, ça commence même avant. Ça commence avant, quand t'as les marins en Méditerranée qui, pour se déplacer, étudient toujours les astres. Le soleil, la lune, les étoiles, c'est à partir de ça qu'ils peuvent se diriger, d'accord, en mer. D'accord. Et à force d'étudier les astres, tu as des scientifiques, des mathématiciens, à l'époque, c'est chez les Grecs, il y a très, très, très longtemps, qui disent, écoute, je pense qu'il n'est pas possible que la Terre soit plate, elle est ronde.
Yes, ma'am.
Alors, ça, c'est une idée qui ne passe pas comme ça. Parce que, toi, qu'est-ce que tu vois quand tu marches sur la Terre? C'est qu'elle est plate.
Yes, ma'am.
Pour penser qu'elle est ronde, il faut faire un sacré effort d'imagination et bien connaître les astres.
Yes,
donc, peu à peu, l'idée, elle progresse, mais lentement.
Yes.
Et tu as des marins qui sont sûrs de ça, dont ce certain Christophe Colomb qui était un Italien. Et voilà l'idée qu'il a. Regarde, si la Terre, elle est ronde, d'accord?
Yes, ma'am.
Alors, toi, tu veux commercer avec la Chine, parce que c'est en Chine,
yes, ma'am,
que tu vas avoir les épices, la soie. Enfin, le commerce avec la Chine est très important.
Yes, ma'am.
Mais c'est un voyage très long et qui passe par les Perses en Iran, par les musulmans. Les chrétiens, ils n'ont pas le pouvoir sur ce commerce-là. Alors il dit, si la Terre est ronde, je pars de l'autre côté. Au lieu de partir vers la Chine par l'Est, si la Terre n'est pas plate, qu'elle est ronde, si je pars de l'autre côté, j'y arrive. Ça se comprend.
Oui, je comprends.
Eh bien, c'est ça qu'il pense Christophe Colomb. Et il se fait financer une expédition par les rois d'Espagne.
Waouh, mommy, si la terre est ronde, si la terre est ronde, my mommy for me, si la terre est ronde, la terre est vraiment ronde, mommy, parce que tu nous as dit comment on peut quitter de l'autre côté pour arriver de l'autre côté, on peut faire ci pour arriver là. Oh, très super. Mais ce n'est pas encore fini. Mommy a encore beaucoup, beaucoup d'histoires à nous raconter. Many, many stories to talk to us. Alors, mais avant de continuer, on va écouter une petite musique. Thank you.
Alors, comment a été colonisée l'Amérique? Quelle époque? 1492. Solange, tu calcules. Le grand-père de ton grand-père de ton grand-père, tu remontes jusqu'où? 1492, combien de grands-pères tu dois remonter? Hein? Plus de 600 ans.
C'est ça.
Bon, donc on est remonté dans le temps. On a les sous, on est avec Christophe Colomb et on part. Attends, trois bateaux, d'accord? Trois bateaux costauds pour l'époque, mais c'est quand même des petits bateaux. Au total, 87 hommes. C'est tout petit. C'est très peu. 87 au total, trois bateaux qui partent. En disant la terre n'est pas plate et ils partent sur la mer tout droit. D'accord? C'était des costauds, hein, ceux-là. Au début, ça marche très bien, Solange. Ils ont les bons vents, ils avancent. Christophe Colomb avait calculé qu'il fallait un peu plus d'un mois pour faire le voyage. Comme ça, pour arriver
de
l'autre. À peu près. Et puis tout d'un coup, plus ça va, moins il y a de vent. Et en plus, dans la mer qui est sans vent, il y a des herbes, des algues. Ça s'appelle les sargasses. Tout d'un coup, les bateaux, non seulement il n'y a plus de vent, mais ils sont avec toutes ces herbes qui les empêchent d'avancer. Donc, ils commencent à s'inquiéter énormément. Et les marins, ils ne sont pas tellement sûrs que ça, que la terre est ronde. Et ça commence
à stresser.
Oui. Alors, ils sont partis un 2 août. Et là, on est déjà un mois plus tard, 6 semaines plus tard. On est même début octobre. Calcul. Alors, l'eau, les réserves d'eau, l'eau, elle est saumâtre, elle est dégueulasse. La nourriture, ils en ont pris beaucoup, mais il y a des vers. Et les marins, ils vont se révolter. Donc Christophe Colomb, il sent ça, il leur ment, il leur dit « c'est pas vrai, ça fait qu'un mois qu'on est parti ». Il leur ment, mais il sent, il risque sa peau, ils vont le tuer, ils vont rentrer. Tout d'un coup quand même, il y a des oiseaux dans le ciel. Ça c'est bon signe. Et il change de cap, c'est le cap quand tu prends le cap en bateau. Il change de cap et il suit le cap des oiseaux. Et il promet aux marins que le premier qui voit la terre, il va lui donner, je ne me souviens plus combien, mais c'est une très, très forte somme
d'argent.
Hein, d'argent. Alors, ce que dit l'histoire, c'est que tu as un marin, à 2 heures du matin, il dit « terre ». Alors, à 2 heures du matin, il est en haut du mât, il regarde, tu as toujours un marin qui surveille la nuit. Et tout d'un coup, il crie « terre », c'est lui qui va avoir l'argent. Moi, ça m'étonne parce qu'à 2 heures du matin, il fait nuit noire.
Comment il va voir la terre?
Il y avait peut-être une grande lune. Enfin bon, résultat, à l'aube, il voit bien la terre. Mais le marin, il n'aura jamais les sous. Christophe Colomb dira que c'était lui. Donc, ils arrivent enfin le 12 octobre. D'accord? Ils sont partis le 3 août et ils arrivent le 12 octobre. Tu t'imagines le voyage?
Mon Dieu!
À une petite terre. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'appellent San Salvador, ce qui veut dire le sauveur. Donc, ils descendent et ils prient Dieu. D'accord? Ça s'appelle encore San Salvador, cette île. L'île du sauveur. Et puis là, je ne sais pas exactement, mais ils vont chercher de l'eau, commencer à naviguer autour de cette île. Et puis, ils arrivent, il y a une île très proche, c'est Cuba. Cuba, c'est une grande île. Donc, ce qu'ils cherchent toujours, en premier, ce qu'ils cherchent, c'est l'eau. Parce que mourir de soif, c'est pire que de mourir de faim.
Exactement.
Ils cherchent l'eau. Et puis, ils commencent à rencontrer des gens. Quand ils les rencontrent, ils les trouvent horribles. Ils sont tout nus. Ils ont une peau bronzée, d'ébène. Pour eux, c'est des sauvages, d'accord? Moi, je te dis, je ne sais pas ce que pensent les sauvages, mais pour eux, c'est des monstres. Ce qu'ils ont en face, ces Espagnols, ils sont blancs, ils sont barbus, ils sont dans un état épouvantable. D'accord. Donc, ils se rencontrent. Et là, c'est moi qui réinvente l'histoire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent de l'eau en premier.
C'est ça, parce qu'ils ont soif.
Plus tard, ils vont chercher l'or, parce qu'ils verront que les Indiens, ils ont des petits bijoux en or. Mais là, ils savent que s'ils veulent continuer la navigation, c'est l'eau en premier. Ah oui, ils croient qu'ils sont arrivés alors en Inde, en Chine. C'est-à-dire qu'on appelait la Chine les Indes. C'est-à-dire toute la région, c'était les Indes. C'est pour ça qu'on les appelle les Indiens. Il s'est trompé, Colomb. Il croit qu'il est arrivé en Chine. Il ne comprend pas qu'il est en Amérique. Ça n'existe pas, l'Amérique, à l'époque. Donc, ils leur demandent, ils sortent leur petit tonnelet pour mettre l'eau. Ils leur disent, on veut de l'eau, parce qu'on va continuer le voyage.
C'est ça.
Comment c'est ça, tu me dis, c'est ça?
Oui, parce que tellement ils ont soif et ils ont peur de continuer le voyage sans des réserves
d'eau. D'accord, et comment tu fais, toi, avec des Indiens Taïno, quand tu parles que le portugais, l'espagnol ou le latin? Tu fais comment?
Mais j'ai fait un moment,
Exactement,
oui.
Avec des gestes.
Oui, mamie.
Avec des gestes, donc ils doivent faire soif, ça s'exprime.
Oui, c'est ça.
Et partir en bateau, ça s'exprime. Oui. Moi, de mon point de vue, les Indiens, ils disent « Formidable, qu'ils se tirent, qu'ils s'en aillent, ces horribles monstres étranges qui nous arrivent sur ces drôles d'embarcations. » D'accord ?
Oui.
Donc, ils les aident. Et alors, les Espagnols, ils demandent de l'eau. Les Indiens, c'est des formidables marins. Ils construisent des pirogues dans des troncs d'arbres, c'est une merveille technique. Certaines pirogues peuvent tenir jusqu'à 150-200 pagayeurs, ils pagayent. Et ils traversent toute la mer des Caraïbes avec ça, ils font des milliers de kilomètres. C'est des bons marins. Bon, et ils savent que quand on part en mer, ce qu'on emmène toujours, tu sais ce que c'est ? La figue de Barbarie. Et pourquoi ? Et pourquoi? Alors, moi, je pensais au début, c'est vrai qu'il y a de l'eau, ça peut étancher la soif.
Oui.
Mais bien plus que ça, c'est plein de vitamine C.
Oui.
Alors, pourquoi c'est important, ça? C'est important parce que quand tu ne manges pas de légumes pendant tout le voyage,
oui,
tu as une maladie qui se développe qu'on appelle le scorbut. Tu commences à perdre tes dents, à perdre tes cheveux, et puis tu meurs.
Mon Dieu.
Donc, le principal danger des marins, c'est le scorbut. Et comment tu luttes contre le scorbut? Avec la vitamine C. Donc, les Indiens finaux, ils leur disent, on leur demande de l'eau, et ils disent, mais prenez ça, avec des gestes.
Yes.
Bon, les Espagnols, ils prennent ça, ils vont appeler la figue de Barbarie, Tuna.
Oui.
Ça veut dire l'eau en taïno, parce qu'il faut savoir la langue taïno aussi, ma belle. Bon, plus personne ne la parle, parce que 50 ans après, ils étaient tous morts, les taïno.
Mmh.
Bon, je passe l'histoire.
Hein.
Parce que grâce à la figue de Barbarie, les marins, ils ont pu revenir tranquillement en Espagne. Et ils ont découvert les îles, Cuba, les Caraïbes, revenus en Espagne et repartis. D'accord ? Parce que ça leur permettait de ne pas avoir le scorbut. Bon, alors, on revient au Mexique. Si tu veux, 40 ans après, les Espagnols, ils ont conquis le Mexique. Alors, le Mexique, c'était pas une île, c'est un immense territoire. C'est grand comme 4 fois la France ou plus, tu vois. Donc, c'est un grand empire avec beaucoup d'agriculteurs. Ils cultivent nos tomates, nos cacahuètes, et tout, etc. Donc, eux, ils cultivaient aussi la figue de Barbarie, mais eux, la figue ne les intéressait pas du tout. Eux, ce qu'ils mangeaient, c'était, tu vois, ce cactus, il a des parties un peu rondes, et on ne peut pas dire qu'il a des feuilles, elles sont pleines de piquants, elles ont la même matière que le tronc, donc ils ont appelé ça des raquettes. Et c'est ça qui intéresse les Mexicains, c'est qu'en fait, ils mangent les raquettes. Alors, tu vois comment ça pousse un cactus. Tu vois, tu as une raquette, puis là-dessus, tu en as une petite qui pousse.
Oui.
Puis tu en as une deuxième qui vont repousser dessus, ça va monter. Et puis à la fin, ça fleurira, il y aura les fruits tout en haut. Mais avant, tu auras une raquette, une deuxième dessus, une troisième. Et il y en aura des toutes fraîches. Et ces toutes fraîches, ces petites, c'est ça que mangent les Mexicains. Ils appellent ça nopal, c'est le nom du cactus.
Yes.
Maintenant, tu peux en avoir en conserve. J'en ai un gros sac, là. Et tu peux l'acheter sur Internet.
Oui.
Donc, quand ce sera la saison des tomates, on ira à la cantine du midi de la Belle de Mai faire une entrée de nopale, de salade de nopale, si tu veux.
Oui, je veux bien.
D'accord ? Comme ça, on verra bien si les Français, ils aiment le nopale. Oui. En général, ils n'aiment pas beaucoup. C'est un peu gluant, c'est comme le gombo.
Oui, le gombo chez nous, oui, chez nous au Cameroun.
Voilà, oui. Alors tu vois, tu prends la raquette de nopale, oui. Tu la découpes en lamelles, tu la fais bouillir, et à partir de là, c'est comme un légume, tu peux la cuisiner en salade. Bon. Cette raquette,
yes, mom.
Si tu veux, tu la coupes,
yes, mom.
Tu la mets dans ton sac,
yes, mom.
Tu pars sur le bateau,
yes.
Et si tu veux, elle va tenir le coup, même si le voyage, il y a de la tempête, elle ne sèche pas, elle ne pourrit pas comme les autres plantes. C'est-à-dire les autres plantes, les marins, oui. C'était très difficile de les ramener. Mais écoute, la raquette de la figue de Barbarie,
oui.
Elle tenait bien le coup. Alors en plus, quand les marins ils arrivent, c'est très facile à planter. Alors tu prends ta raquette,
oui.
Tu coupes un bout en biseau,
oui.
Tu creuses la terre, il faut que ce soit une terre sèche, aride.
Yes,
tu la plantes, tu mets un petit peu d'eau,
yes,
quelques jours, et puis ça pousse tout seul.
Wow.
Donc, ceux qui sont revenus, même le premier voyage, ils ont des raquettes, ils les plantent, et ça pousse. Donc, pour les autres voyages, ça va très vite. Ça pousse très vite, un cactus. En plus, la figue de Barbarie a adoré le climat méditerranéen. Elle se sentit à l'aise chez elle. Et ça poussait, ça poussait. Donc, les marins, quand ils repartaient, ils avaient les figues de Barbarie pour lutter contre le scorbut. Et c'est comme ça que le figuier de Barbarie est arrivé en Espagne. Et de là, il a fallu qu'il aille en Algérie.
C'est ça.
Et c'est ça qu'on verra la prochaine fois.
Wow. Quelle belle histoire, momie. Ça m'a donné la chair de poule parce qu'il y a une partie, momie, que tu as essayé d'expliquer, qu'ils sont arrivés au milieu de l'eau. Ils ont manqué, ils n'avaient plus de l'eau, ils n'avaient plus rien parce que le temps qu'ils ont mis pour arriver, ça avait dépassé. Ça m'a rappelé le désert quand j'entrais en Italie.
Ah.
Quand j'entrais en Libye pour l'Italie, ça m'a rappelé ce désert, il y avait trop de stress. Et notre voiture est tombée en panne et on a parcouru un peu, c'est que... Mamie, tu viens de raconter.
D'accord.
Ça m'a donné la chair de poule et c'était une très belle histoire.
Merci Solange de nous dire ça.
De Barbarie dans tous ses états. Épisode 1.
Une chronique de Radio Café Causé.
Entièrement fait maison.
Proposé par Solange, Sybille
et Sarah.
Avec le soutien technique de Fabrice.
Musique.
Balalaké Sissoko et Vincent Sigal. Camille Touvenot.
Écoute aimé.
À retrouver en podcast sur le site www.enchantier.org. Radio Café Causé, une radio participative à la Belle de Mai. Si vous souhaitez y contribuer,
contactez-nous par mail
à cafécausé@enchantier.org
ou par téléphone
au 07 49 57 13 67.